Alors bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, l'édition du 4 janvier 2018. 18. Yeah, je l'ai eu. Alors, Monique Kerouac au micro, avec moi en studio, Marie Lalande.
Bonjour.
Bonjour Marie.
Bonjour.
Et Yvan Deslauriers.
Bonjour Monique.
Ben, ça fait plaisir de vous retrouver. Et bien sûr, il y a Mathieu en régie. Alors écoutez, c'est début d'année, nous unissons nos voix hein, pour vous souhaiter, chers auditeurs, santé, sérénité, un environnement sain, paisible et stimulant.
Oh, oui.
Stimulant oui. En écoutant Canal oui. M, bien sûr. Alors l'équipe du jeudi est prête et toujours enthousiaste pour vous parler d'éducation, de petite enfance et famille. Pour vous parler d'activité physique et ensuite des découvertes et avancées scientifiques. Alors, dans cet esprit,
oui.
Chers collaborateurs, Marie, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Alors, vous l'avez bien dit, moi, je suis dans le créneau éducation, petite enfance, apprentissage, et aujourd'hui, je vais vous parler des bases. Alors, on parle d'écriture, de lecture et de mathématiques.
Wow!
Voilà.
De mathématiques.
C'est complet.
Oui.
Hein?
C'est complet.
Et Yvan, de votre côté?
Ben, de mon côté, hein, c'est le début de l'année. Alors, qu'est-ce qui se passe
du
point de vue activité physique
les
en début
d'année? Les bonnes résolutions.
Ah oui, je vais aller au gym, je vais courir, je vais faire ci, je vais faire ça. Alors, mon premier article parle de garder la motivation pendant plus qu'une semaine.
Wow!
C'est bon.
On va écouter ça. Attends.
Et dans le deuxième cas, je parle d'une jeune fille qui grimpe, 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 peut-être jusqu'aux Jeux olympiques.
Wow! Super! Et de mon côté, un premier article au sujet d'une équipe scientifique inspirante. Je vous dirai sur quoi elle centre ses recherches plus tard, mais c'est très intéressant. En second lieu, un article sur les cheveux et des réponses à des questions que vous avez peut-être. Alors, c'est parti! Alors Marie, tu nous expliques que l'écriture, c'est bien plus que tenir un crayon, je pense.
Oui, en fait, le titre de l'article, c'est l'écriture en cadeau. Et non, ça n'a rien à voir avec le temps des fêtes, Noël et tout ça. En fait, l'écriture, c'est un cadeau. C'est un texte de Martine Letarte qui a été publié dans la revue Québec Science et sur le site du même nom. Québec Science a fait, dans sa dernière édition, un encart spécial sur l'éducation. Donc, ça a été publié le 16 novembre 2017. Il faut, et vous le disiez, plus que des crayons et du papier pour initier les enfants à l'écriture. Cela passe par une foule d'activités, depuis la lecture d'histoires jusqu'au renforcement des muscles de la main. Mais en fait-on suffisamment?
Ah, ça, c'est de l'activité physique, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Tout à fait.
Tout est dans tout.
Oui. Alors, on s'imagine, c'est l'heure du dodo. Vous demandez à votre tout-petit de choisir un conte. Vous créez une ambiance feutrée en tamisant l'éclairage et placez ses oreillers pour garantir plus de confort. Puis vous lui lisez l'histoire en suivant les mots avec votre doigt et en lui montrant chaque image. Ensuite, vous l'embrassez, remontez sa couverture et quittez la chambre sur la pointe des pieds en espérant qu'il tombe rapidement dans les bras de Morphée. En plus d'être un doux rituel, l'histoire du soir est une activité bénéfique pour l'enfant qui est ainsi initié à la lecture, mais aussi à l'écriture. C'est important de commencer à lire des histoires très tôt à son enfant, pratiquement à sa naissance, parce qu'il se familiarisera tranquillement avec le concept des lettres et des mots. Ensuite, il verra qu'on lit et qu'on écrit de gauche à droite et de haut en bas. Et c'est Pascale Thériault qui nous explique ça. Elle est professeure au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Chicoutimi, l'UQAC. Lorsque l'enfant s'exprime davantage, le père ou la mère peut l'interroger sur le récit. Qu'arrivera-t-il au petit chaperon rouge lorsqu'il arrivera à la maison de sa mère grand? Jack échappera-t-il à l'ogre qui vit tout en haut du haricot magique? Cette discussion pique la curiosité du futur petit lecteur tout en l'aidant à comprendre comment se construit une histoire. Les parents peuvent aussi recourir à la technologie entre autres les tablettes. Les enfants ou leurs enfants apprivoiseront ainsi la lecture sur différents supports et cela peut être une source de motivation pour eux, affirme toujours Pascal Thériault. Toutes ces stratégies n'ont rien d'anodin quand on sait que le développement de bonnes habiletés en lecture joue un rôle essentiel dans la réussite scolaire. De faibles compétences en lecture au premier cycle du primaire, donc c'est la première et la deuxième année, sont l'un des principaux facteurs de risque de décrochage scolaire, d'après des données compilées en 2016 par l'Institut de la statistique du Québec. Cette étude précise que les enfants qui feuillettent des livres par eux-mêmes tous les jours à partir de 2 ans et demi, ont un niveau moyen de motivation en lecture au primaire significativement plus élevé que ce qu'ils font une fois ou moins par semaine. On l'aura compris, les parents sont les premiers à guider leurs rejetons dans le monde de la lecture et de l'écriture. Il y a un lien très fort entre l'implication des parents et la réussite scolaire, confirme Nathalie Lavoie, qui est professeure en sciences de l'éducation à l'Université du Québec, à Rimouski cette fois, l'UQAR. Et ce, même si ces derniers, les parents, sont analphabètes. Ces parents peuvent tout de même consulter des livres avec leurs enfants et discuter avec eux des images, explique-t-elle. C'est un défi, mais il faut les impliquer davantage afin d'éviter que leurs enfants entrent à la maternelle en étant à la traîne.
Est-ce qu'on leur dit, par exemple, suffisamment à ses parents, à tous ses parents?
On le souhaite. En fait, il y a de plus en plus d'activités qui s'adressent aux parents de jeunes enfants.
Ah, ben, tant mieux. On le souhaite.
En effet, il doit avoir un continuum entre ce qui se fait à la maison, à la garderie et à la maternelle, parce que cela servira d'assise pour l'apprentissage formel de la lecture et de l'écriture en première année. Et c'est toujours Mme Thériault qui nous dit ça. Apprendre à écrire requiert de la motivation et, par conséquent, des modèles. À ce sujet, la recherche est formelle, les mères jouent souvent ce rôle, mais c'est aussi important d'avoir des exemples masculins, particulièrement pour les garçons, dont la réussite scolaire inquiète, affirme Mme Lavoie, qui est aussi titulaire de la chaire de recherche sur la persévérance scolaire et la littératie. Ces modèles doivent également expliquer à quoi sert l'écrit. Faire une liste d'épicerie pour ne rien oublier, noter l'heure d'un rendez-vous pour ne pas être en retard, ou encore écrire un mot gentil pour témoigner son affection. Une autre idée qui pourrait inciter les enfants à prendre le crayon plus souvent, l'aménagement d'un coin écriture avec du mobilier approprié et beaucoup de matériel à disposer graduellement pour maintenir l'effet de nouveauté, comme des crayons de cire, des crayons feutres, des feuilles de papier de différentes grandeurs et textures, etc. Idéalement, on laisse ce matériel à la portée des enfants pour qu'ils puissent l'utiliser spontanément. Par exemple, après avoir fait une promenade où on a montré les panneaux indicateurs de noms de rue et où on a expliqué leur utilité, on a de bonnes chances par la suite de voir les enfants essayer de les reproduire lorsqu'ils jouent avec des petites voitures. Ensuite, si on leur demande d'écrire un mot, ils auront tendance à le faire avec des pseudo-lettres. Alors, ils imaginent, ils inventent des lettres. Alors que les enfants qui n'auront pas été familiarisés avec l'écrit et à la présence de crayons, ainsi que de papier, seront plus intimidés et diront simplement qu'ils ne savent pas écrire, indique Mme Lavoie. Cela dit, l'écriture n'est pas qu'une affaire d'intellect. Les muscles sont aussi de la partie. Différentes activités aident les tout-petits à développer leur force et leur motricité fine ou globale. Par exemple, le bricolage, les jeux de manipulation d'objets comme enfiler des billes sur une corde. On privilégie aussi des activités physiques qui favorisent une bonne coordination des mouvements, depuis le hockey jusqu'au jumping jack. Même tordre une débarbouillette est un excellent exercice pour développer les muscles des doigts et des mains, affirme Mme Lavoie. Il faut aussi renforcer ceux des épaules et des bras et amener les enfants à travailler leur posture. Tout cela aura un impact sur l'apprentissage de l'écriture. Alors, je vous imagine
tout
comme
le monde
ici
se
studio,
redresse.
Tout le monde se rassoit comme il faut. On croit souvent qu'il faut d'abord apprendre aux enfants à lire et ensuite à écrire. Or, les études ont démontré que l'apprentissage de l'écriture a plus d'impact sur la lecture que la lecture en a sur l'écriture. En fait, les instituteurs devraient enseigner les deux en même temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental et qui bouge un peu dans les croyances des gens. Alors voilà, c'était un texte de Martine Letarte, publié dans la revue et sur le site de Québec Science, le 16 novembre 2017.
Alors, Yvan, je pense que vous allez nous inciter à bien commencer l'année.
Bien, oui.
Mais ça va être plate, hein?
Non! Absolument pas.
C'est vrai.
Alors, c'est très rare que ça arrive, mais j'ai un article de ce matin.
Ah oui, mon Dieu, oui. C'est frais.
C'est tout frais, c'est dans la presse de ce matin. Ça s'appelle « Pratique d'une activité physique. Trouver la bonne motivation pour persévérer ». C'est écrit par Marie Allard dans la presse d'aujourd'hui, le 4 janvier. Alors, pour contrer l'envie d'hiberner comme un ours, rien ne vaut le sport. Mais comment se motiver à bouger et à persévérer? La presse en a parlé avec Robert J. Valran. Vous ne connaissez pas?
Non.
Professeur de psychologie sociale et directeur du laboratoire de recherche sur le comportement social à l'Université du Québec à Montréal. Plusieurs personnes prennent la résolution de faire du sport. Combien y arrivent? Les recherches démontrent bien souvent que plus de 50 % des gens, plus de la moitié des gens qui commencent en janvier vont arrêter. Ça ne dit pas vont arrêter la semaine d'après.
Quand, mais c'est ça? On est curieux.
Ils vont arrêter. Environ le quart, 25 % commencent tellement vite, sans être prêts, qu'ils se blessent et c'est la fin.
Bien sûr.
C'est ça l'excuse.
Ah, d'accord.
Pour un quart.
Pour un quart.
Oui.
Un autre quart fait du sport pour perdre du poids. Je ne sais pas d'où vient cette idée. Mais l'exercice, en fin de compte, ce n'est pas juste pour perdre du poids, c'est une façon de vivre. On sait tous que c'est important pour atteindre un équilibre autant physique que psychologique.
Bien sûr.
Les adultes, dit-elle de façon dubitative.
J'y crois.
Les adultes de 18 à 64 ans devraient faire 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée chaque semaine. 150 minutes, là, c'est 5 fois 30 minutes.
Mm-hmm. C'est très peu.
C'est très peu.
C'est relativement peu. Et d'ailleurs, je vais vous arriver dans pas longtemps avec comment faire de l'exercice physique en moins de 30 minutes. Mm-hmm.
Dans pas longtemps.
Personne n'y échappera.
Non. Seul un adulte sur 5 y arrive, c'est-à-dire de faire 150 minutes d'activité physique par semaine. C'est ce que vous voyez qu'il y en a un seul qui y arrive. Oui, dans le monde universitaire, par exemple, on a des horaires de fou. Je regarde Monique, elle vient du monde universitaire.
Oui.
Avec la recherche, les demandes de subventions, les articles à publier, les étudiants, les cours, on sait tous que faire de l'exercice, c'est important. On est souvent assis, même bien assis, Marie. On sait qu'être assis, c'est la cigarette des années 2000, le nouveau fléau. Et pourtant, est-ce que tout le monde s'entraîne? Eh bien non. Alors, comment augmenter ses chances de rester motivé? Il faut se demander quand on va placer l'exercice dans son horaire. Cela doit suivre immédiatement la prise de décision de faire du sport. Sinon, il n'y aura pas d'implication ou d'engagement envers l'exercice de façon assidue.
Mais c'est stratégique.
Mm-hmm. Oui. Alors, le monsieur qui parle, le monsieur Valeran, nous dit que lui, c'est la première chose qu'il fait le matin. À 6h30 ou à 7h, il part s'entraîner, de sorte qu'après, c'est fait. Marie puis moi, on fait à peu près la même chose, puis dans le vestiaire, après, les gens disent « OK, c'est fait, on peut faire notre journée maintenant. »
C'est ça. De mon côté aussi.
On s'en est débarrassé.
Ouais.
Plus la journée avance, plus tout ce qu'on a à faire est important. Le choix de l'activité est aussi crucial? Oh oui! Lui, il adore le basketball. Il joue encore au basketball. Mais si quelqu'un me dit « Viens-tu à la natation? Je vais me sauver en courant. » L'exercice, personne n'est obligé d'en faire, à moins que son médecin lui dise « Si tu n'en fais pas, tu es en danger. » Donc, si la personne n'aime pas l'activité choisie, elle va finir par la mettre de côté. Les chances d'être assidu baisseront. On veut que la motivation soit au moins autodéterminée, ce qui veut dire que je le fais par choix et autant que possible intrinsèque, ce qui veut dire que je le fais par plaisir. Une motivation extrinsèque, par exemple pour faire plaisir aux amis, n'est pas de la même qualité. On peut aussi choisir de s'entraîner seul ou avec d'autres. Et oui, pour certaines personnes, l'activité sociale, l'aspect social est important. Pour d'autres, non. L'essentiel, les philosophes grecs avaient vraiment mis le doigt dessus, connais-toi toi-même et tu vas pouvoir faire de bons choix. Il y a par ailleurs des gens qui font du counseling de loisirs, qui peuvent aider les gens à choisir une activité pour un épanouissement optimal. Les centres sportifs offrent souvent de nouveaux cours en janvier. Est-ce une bonne idée de varier les activités? Ce que les gens recherchent souvent, c'est de ressentir des émotions positives en faisant de l'exercice. Pour certaines personnes, le dépassement de soi et l'atteinte de l'excellence vont leur permettre de se sentir bien. Pour d'autres, il est important de s'améliorer. Or, dans l'entraînement, on atteint des plateaux. Il y a des gens qui ont de la difficulté à faire face au fait qu'ils ne ressentent plus d'émotions positives en faisant leur activité parce qu'ils sont sur un plateau, ils stagnent. S'ils commencent une nouvelle activité, ils vont s'améliorer jusqu'à ce qu'ils vivent un nouveau plateau et rechangent d'activité. D'autres trouvent leur activité et y tiennent parce qu'ils deviennent passionnés. Et c'est bien cette passion? Ben, si c'est une passion harmonieuse, les gens vont bien l'intégrer dans leur vie. Ce sera un bonus avec des bénéfices autant sur le plan physique que psychologique. Ils vont persévérer malgré les plateaux. Ceux qui ont une passion obsessive, par contre, attention, ça peut devenir dangereux. Si tu mets de côté des choses importantes et intéressantes de ta vie parce que tu ne veux pas manquer ton exercice, il y a un problème. Il faut que ça ajoute à la vie, pas que ça en enlève. Alors ça, c'était l'article de ce matin dans un article intitulé, pardon, Trouver la bonne motivation pour persévérer. C'était dans la presse, sous la plume de Marie Allard.
Alors, on est prêt.
Je pense.
À l'entraînement.
À la fois, bien le faire la première fois, on recommence à chaque fois quand on fait deux choses à la fois, une chose à la fois. Faut faire une chose à la fois, bien le faire la première fois, on recommence à chaque fois quand on fait deux choses à la fois, une chose à la fois. C'est fou comme y'a rien qui marche quand on court après le temps, quand on court après le temps, y'a rien qui marche. Disait mon père, tant pas faire en si peu de temps. Une chose à la fois, il faut pas péter sa coche, surtout pas péter sa coche contre le temps qui change. Il faut comme fille en dépenser, mais si prendre un peu d'avance que de tester sa patience. La patience est une rivière qui pourrait t'emporter. Si courant prend son air, il faut savoir le contrôler. Et faire une chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois quand on fait des choses à la fois. Mardi l'arbre ambitieux qui a fini par s'abattre. Le temps est un libertin qui pousse en liberté. Je me répète en vain que je devrais m'en douter. Et faire une chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois quand on fait deux choses à la fois. Une chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois quand on fait deux choses à la fois.
Tiré de son album Faut qu'on bouge, c'était Pierre-Hervé Goulet qui nous chantait Une chose à la fois.
Merci Mathieu. Alors à mon tour, il s'agit d'un article de Marie-Claude Lortie de La Presse qui date en fait du 16 avril, mais qui a été reprise le 31 décembre 2017 dernier dans la section Inspiration Science. Alors l'article s'intitule « Greffer des organes, construire des équipes ». S'il y a un point commun entre pratiquement toutes les personnalités de la semaine que choisit la presse, c'est bien celui-là, c'est-à-dire une hésitation spontanée à accepter personnellement une reconnaissance que l'on estime destinée à une équipe. Ainsi, Mélanie Dieudé et Marie-Josée Hébert ont carrément insisté. Si on prend une photo d'elle, il faudra la prendre avec tout leur groupe de recherche, ont-elles expliqué en substance. Rien ne serait possible sans l'apport de tous ces gens. Mélanie Dieudé et Marie-Josée Hébert ont été choisies personnalités de l'année en sciences, car elles ont fait, avec leurs collègues, une découverte importante expliquant une clé dans le rejet des organes transplantés. Alors écoutez bien, elles ont trouvé que l'organe sain que l'on s'apprête à installer pour remplacer un organe qui ne fonctionne plus, un cœur, un rein, des poumons par exemple, envoie des signaux de détresse, même si c'est lui qui est en forme. En fait, puisque cet organe vient d'être retiré d'un corps qui a subi tout un traumatisme, on prélève les organes sains sur des personnes en état de mort cérébrale, donc qui ont traversé quelque chose de gravissime. Il n'est pas calme, il n'est pas serein, ni conscient qu'il s'apprête à faire une bonne action. C'est cette alarme qui est transmise au corps du receveur et qui fait réagir son système immunitaire, causant des difficultés. Dans le monde de la transplantation, la percée est de taille. Assise dans un chouette bureau tout vitré du nouveau centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, où Marie-Josée est chercheuse, et médecin, les deux scientifiques se disent surprises et touchées qu'on les ait choisies comme personnalités de l'année. Étienne a parlé de collaboration, de l'importance pour l'avancement de la science, des connexions entre les disciplines. Madame Dieudé, par exemple, est spécialiste en immunologie. Elle a une formation de premier cycle puis de l'Université de Montréal, puis elle a fait une maîtrise en endocrinologie à l'Hôtel-Dieu avant de faire un doctorat en sciences biomédicales à l'Université de Montréal, toujours, sur les maladies auto-immunes. C'est par la recherche sur les maladies auto-immunes qu'elle a cheminé vers l'étude du rejet des greffons. Aujourd'hui, elle travaille donc pour le Programme national de recherche sur la transplantation et elle est chercheuse au Centre de recherche du CHUM. Marie-Josée Hébert, de son côté, est néphrologue, c'est-à-dire qu'elle est spécialiste des maladies du rein et spécialiste des greffes au CHUM, donc aussi au Centre de recherche du CHUM, en plus d'être vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation de l'Université de Montréal, ce qu'on appelle multitâche. Après son cours de médecine ainsi que sa spécialisation, elle est partie faire des études postdoctorales à Brigham and Women's, l'un des principaux hôpitaux universitaires rattachés à Harvard à Boston. Et c'est là, notamment, qu'a été pratiquée la première transplantation d'organes de l'histoire, un rein, en 1954. Oh. Alors, non seulement travaillent-elles ensemble, mais elles ont formé un groupe pluridisciplinaire pour pousser leurs recherches. Il y a un microchirurgien, Shijiki, qui fait des greffes d'aorte sur des souris, un patient partenaire, Sylvain Bédard, le greffé du cœur qui grimpe des montagnes, qui leur parle de son arythmie, du nouveau cœur dont il a besoin, parce qu'une greffe, ça ne dure pas pour toujours. Il y a des étudiants au doctorat, Héloïse Cardinal, une néphrologue, épidémiologiste. Docteur Hébert explique que c'est une approche bien différente. Il faut laisser son égo à la porte et passer uniquement au service de la connaissance. L'ère du grand chercheur qui règne sur une équipe de chercheurs anonymes à son service est passée, croit Mme Hébert.
Mais tant mieux.
Alors, on souhaite, surtout à M. Bédard, le deuxième cœur qui l'attend depuis déjà plusieurs mois. C'était donc un article de Marie-Claude Lortie du 16 avril qui a été repris le 31 décembre 2017 dans la Presse Plus.
Alors, dans la presse, depuis le 2 janvier, il y a une chronique très courte qui s'appelle « Le calendrier de l'après ».
Mm-hmm.
Alors, je vous en lis une petite partie pour tout récemment. Le conseil du jour pour commencer l'année du bon pied, nouvelle année oblige, vous avez certainement déjà pris une foule de résolutions, peut-être. Inutile de vous rappeler ici l'importance de bouger, vous le savez bien déjà parce que vous m'écoutez. Mais saviez-vous que votre cerveau a lui aussi besoin de s'aérer? La directrice du Centre d'études sur le stress humain, Sonia Lupien, vous suggère aussi ceci. Obligez-vous à sortir chaque jour pendant au moins 20 minutes. La lumière du jour fera un bien fou à votre cerveau et l'exercice physique vous aidera à négocier le stress des fêtes et les 34 tourtières. L'art de joindre l'utile à l'agréable. Oust! Dehors!
Super! Marie, un petit mot d'enfant?
Un petit mot d'enfant, tiens, je vais en choisir. Extraterrestre, ce que maman suspecterait d'avoir envahi la maison si elle voyait une créature enfantine ranger sa chambre.
Oh, alors, l'émission Les Voix de Service Magazine se poursuit après la pause, avec au menu quelqu'un qui grimpe.
Oui.
L'apprentissage de concepts mathématiques, oui. Et pourquoi pas les cheveux. Alors, à tout de suite, restez avec nous.
J'apprivoise ma chute libre. Le réel, j'y tiens plus qu'à un fil. J'ai le vertige quand j'entends ta voix. J'ai le vertige dès que le sol craque sous tes pas. J'ai
Ariane Brunet et sa chanson Vertige, tirée de l'album Fusée.
Alors Yvan, nous t'écoutons décrire la passion d'une jeune fille.
Qui, on l'espère, n'a pas le vertige?
On l'espère.
Je vous lis cet article-là parce que dans le temps des fêtes, par hasard, on a rencontré l'entraîneur de cette personne-là. Ah,
le monde est petit quand même.
Il est vraiment étrange, le monde. Parce que ce jeune homme-là, on le connaît, mais sous son nom que tout le monde utilise. Mm-hmm. Puis là, on a son vrai nom dans le nom. Moi, je n'avais pas fait le lien entre les deux choses.
Alors voilà. C'est fait.
C'est l'histoire en arrière de l'histoire. Babette Roy, une jeune athlète qui monte et monte. C'est sous la plume de Marie-Claude Lortie parce que c'était aussi dans le contexte de la personnalité de la semaine. C'était au mois de novembre dernier, le 12 novembre. Quand la jeune outremontoise Babette Roy était toute jeune, elle grimpait partout. Puis là, tous les parents pensent déjà, ils voient des choses. Sur les poteaux, les arbres, les armoires, les cadres de portes. Les cadres de portes?
Oui, elle a des ventouses.
Oui, il y a des rebords sur les cadres de portes.
Ah oui, c'est vrai.
Tu vois,
en haut, là.
Tu vois ce dont je parle? Je grimpais sur ça. Comme il n'y avait rien à faire pour l'arrêter, ses parents ont décidé de l'envoyer dans un centre d'escalade à Horizon Rock, dans Hochelaga-Maisonneuve. Ceux qui passent devant, souvent, ils savent exactement où est-ce que c'est. Elle avait 8 ans. Aujourd'hui, la personnalité de la semaine du mois de novembre en a 15. S'entraîne maintenant à Allez Hop, à Pointe-Saint-Charles. Elle vient de terminer en deuxième place de la compétition d'escalade au championnat panaméricain junior. Et elle vise les Jeux de Paris en 2024, puisque cette discipline fait maintenant partie du répertoire olympique.
Wow.
Babette a toujours été sportive, raconte-t-elle. Sa mère est professeure de yoga et de danga, combinaison de danse et de yoga. Et son père, ébéniste d'origine allemande, venu au Québec par amour, a toujours couru.
Alors voilà pourquoi elle s'appelle Babette, parce que son père est d'origine allemande.
Non. Ouais,
et
je sais
le
pas.
Film, le festin de Babette,
c'était,
non,
c'était, pas allemand.
C'était même pas allemand. C'était alors pas... retirez tout ce que vous venez d'entendre. C'est très bien, je n'ai rien dit.
C'est un pays nordique.
On va continuer à chercher. Dans la famille, bouger fait profondément partie de l'ADN. Quand elle était petite, il n'était pas rare de croiser Babette dans de grands événements de course avec son frère et ses parents. Un demi-marathon ou un 10 km pour les adultes, un 1 km ou un 2 km pour les enfants. Aujourd'hui, Babette court toujours. On pourrait faire un film avec ça. Aujourd'hui, Babette court toujours. Mm-hmm. Elle fait aussi de la musculation et elle grimpe comme jamais. 3 heures par jour, pratiquement tous les jours. Sa vie, son sommeil, son alimentation sont encadrés par son sport et par tous les efforts qu'elle y met avec son entraîneur qu'elle admire, Marc-Antoine Vigneault, que nous, on appelle Marco.
Marco.
Je ne pense pas que j'ai une spécialité, dit l'adolescente, quand on lui demande ce qu'elle préfère dans ce sport qui est surtout pratiqué à l'intérieur. Qu'on se le dise, l'escalade n'a rien à voir avec l'alpinisme, explique Babette, qui n'a aucunement l'intention de gravir l'Everest un jour. L'escalade, c'est uniquement trouver une façon de se hisser en haut de parois verticales. Donc, cela fait partie de l'alpinisme. Mais dans l'alpinisme, il y a en plus du camping, de la marche et compagnie, aspect que l'athlète ne semble pas trouver particulièrement intéressant. Cela dit, si Babette voit une paroi rocheuse dehors, elle s'y intéresse. Je regarde où sont les prises. Un voyage à Cuba, où on peut faire de belles grimpées extérieures, est sur sa liste de projets un jour. À Montréal, au mois de novembre, où avait lieu le championnat panaméricain junior d'escalade, elle a fini en deuxième place au total des points, mais elle a terminé de façon inattendue en première place de l'épreuve dite de bloc. Mm-hmm. Parce que les compétitions d'escalade se déclinent en 3 volets. Il y a les blocs, ce qu'elle a gagné, où les concurrents ne grimpent pas très haut, peuvent tomber et recommencer. Ne sont pas assurés. Assurés, ça veut dire qu'ils ne sont pas attachés. Et doivent trouver une façon de terminer 4 parcours remplis d'embûches dont ils ne savent rien avant de commencer. Les compétitions comprennent aussi des épreuves de vitesse et d'ascension plus classiques, en hauteur, où cette fois les grimpeurs sont assurés, c'est-à-dire attachés par des cordes au cas où ils tomberaient. Selon moi, je suis équivalente dans les trois, dit-elle, mais peut-être qu'à l'international, c'est un peu plus difficile pour la vitesse. Parce que Babette fait plusieurs événements internationaux depuis qu'elle est entrée dans l'univers des compétitions à l'âge de 9 ans, elle est allée à Innsbruck aux championnats mondiaux et elle se prépare à ceux de Central Saanich l'été prochain en Colombie-Britannique. Encore une compétition au Canada? Oui, mais c'est bien plus un sport européen, répond l'athlète. Les Français qui ont beaucoup contribué au développement de cette discipline sont très doués, sont très forts, mais ce sont les Japonais les plus redoutables, précise la jeune femme. Et devra-t-elle manquer un peu d'école à travers tout ça si elle veut se rendre aux Jeux de Paris dans 7 ans?
Oups.
Bien sûr, répond l'adolescente.
Avec plaisir.
qui est en 4e secondaire à l'école Paul Gérin-Lajoie à Outremont. J'en manque déjà avec tous les entraînements, mais je me rattrape, ça va. Et l'escalade, c'est de plus en plus ma vie. Alors, c'était l'article sur Babette Roy, une athlète qui monte, et monte et montera peut-être jusqu'aux Jeux olympiques de Paris.
Ben, on lui souhaite bonne chance. Alors, c'est à mon tour. Je vous lis un article d'Émilie Gillet de la revue Sciences et Avenir d'octobre 2017. Il s'intitule « Prendre soin de ses cheveux ». Alors, on sait, Samson épuisait sa force physique. Pour bien des femmes, et je pense pour quelques hommes, c'est un gage de séduction. Mais à quoi servent-ils réellement les cheveux? D'un point de vue évolutif, l'explication la plus plausible, et qu'il protège notre cerveau des variations de température. Alors, c'est fort utile ces jours-ci. Contrairement, je regarde Mathieu, mais il faut pas. Contrairement aux autres organes vitaux, notre cerveau est à l'extérieur du corps, loin de toute source de chaleur, et c'est par le crâne que s'effectue, d'ailleurs, jusqu'à 30 % de la perdition de chaleur lorsqu'il fait froid.
Oui, c'est vrai.
Les cheveux, en piégeant une quantité importante d'air, assurent une isolation très efficace. Ils peuvent aussi amortir les chocs lorsqu'on leur fait de l'escalade, pourquoi pas? Donc, première question. Pourquoi les cheveux blanchissent-ils? Alors, c'est un phénomène inéluctable, messieurs, mesdames, dû à l'épuisement progressif des mélanocytes. Alors, qu'est-ce que c'est les mélanocytes? Ces petites cellules responsables de la pigmentation de la peau, des poils et des plumes. Alors, on peut imaginer que les oiseaux ont aussi des cheveux blancs, je sais pas, des plumes blanches.
Des plumes blanches.
Si nos cheveux se renouvellent sans cesse, leur cycle de vie est limité, environ 4 ans. Or, au bout d'une dizaine de cycles de croissance capillaire, soit vers l'âge de 40 ans environ, les mélanocytes meurent progressivement et la production de mélanine diminue. Alors, les nouveaux cheveux poussent plus clairs, voire complètement blancs. Chaque cheveu n'ayant qu'une seule couleur sur toute la longueur, moins d'utiliser des subterfuges. Rien ne sert de les arracher.
Ouais.
Ils repousseront de toute façon de plus en plus blancs.
Okay.
Deuxième question. Faut-il ne plus les laver?
Parce qu'il y a, justement de ça hier soir.
Il y a une mode, l'eau peau, nos peaux. Alors, la mode est au shampoing de moins en moins fréquent, l'eau peau, en fait P-O-O. Voire ne plus se laver les cheveux du tout, nos peaux. Alors, ces pratiques ne sont pas sans risque, je vous épargne tous les détails, mais l'idéal, selon les dermatologues, est de se laver les cheveux une ou deux fois par semaine en utilisant un shampoing doux avec un pH entre 6,5 et 7, et ce sans silicone qui alourdit et étouffe les fibres. Voilà. D'accord. Troisième question.
D'accord.
Mathieu, écoute bien. Quels sont les remèdes efficaces contre la calvitie?
Parce que jusqu'à présent, les auditeurs, ils ne savaient pas.
Ils ne savaient pas.
Non, je ne pensais pas non plus que c'était une maladie.
J'ai révélé quelque chose. Ah, ben c'est pas une maladie, crois-moi. Un homme sur trois devient plus ou moins chauve. Cette calvitie a une origine le plus souvent hormonale. En fait, c'est un dérivé de la testostérone, appelé DHT, qui se fixe dans les follicules pileux, ça c'est le petit sac qui contient le poil, et accélère leur fonctionnement et précipite leur disparition. Et le DHT, c'est pas un insecticide. Si la calvitie n'est pas trop importante, l'application quotidienne d'une lotion à base de minoxidil ralentit le cycle des follicules pileux. Il existe aussi un médicament, le finastéride, qui bloque la DHT. Alors, ces deux traitements peuvent être combinés, mais leur efficacité et les effets secondaires sont très variables d'une personne à l'autre. Par ailleurs, ils ne font que ralentir la perte des cheveux. Quand la calvitie est déjà importante, eh bien, la greffe est le seul remède efficace. Bon. Mathieu, ça y tente pas, je pense.
Non, je vais garder mes puces.
C'est ça, exactement. Quatrième question. Pourquoi les cheveux sont-ils un bon support d'analyse biologique? D'abord, en fait, les cheveux gardent en mémoire tout ce qu'on absorbe. Il faut retenir ça. D'abord, parce qu'il est plus facile de prélever une mèche de cheveux que du sang ou de l'urine. Ensuite, parce que la fenêtre de détection dans les fluides corporels n'est que de quelques minutes à quelques heures selon les molécules. Dans les cheveux, celles-ci sont fixées de façon définitive. La fenêtre temporelle ne dépend donc que de la longueur. Alors, sachant qu'ils poussent en moyenne d'un centimètre par mois, plus les cheveux sont longs et plus on peut remonter dans le temps. Tout ce qui passe dans notre sang, ce sont les substances que l'on retrouve dans nos cheveux. Tout ce que l'on ingère, tout ce que l'on inhale, mais aussi ce qui traverse la barrière cutanée. Les cheveux reflètent donc ces trois sources potentielles d'exposition à des substances. Alors, quand on fait des investigations, comme dans CSI, l'important est de savoir à l'avance ce qu'on cherche précisément. Dernière question. Pourquoi perd-on nos cheveux lors d'une chimiothérapie? Alors, c'est que la plupart des chimiothérapies détruisent les cellules qui se multiplient très rapidement. Depuis plusieurs années, certains centres anticancéreux proposent à leurs patients de porter un casque réfrigérant pendant les séances de chimiothérapie. Le froid provoque un effet rétrécissant des vaisseaux sanguins, ce qui diminue la diffusion locale des médicaments. Donc, grâce au casque, 50 à 60% des malades perdent moins de la moitié de leurs cheveux, alors que sans casque, tous en perdent plus de la moitié.
Alors, remarquable.
On espère que ce sera diffusé plus largement. Alors, c'était un article d'Émilie Gillet pour Science et Avenir d'octobre 2017. Mais j'ai peut-être quelques données, si j'ai le temps. Alors, 100 000 à 150 000 cheveux que l'on a sur la tête, 50 à 100 cheveux perdus chaque jour, la vitesse de pousse, 5 mm pour un Africain, 10 mm pour un Caucasien, 15 mm pour un Asiatique. Durée de vie, 4 à 6 ans pour les femmes, des cheveux,
oui.
Pas des femmes, et 2 à 4 ans pour les hommes.
Ah.
Alors voilà, vous savez tout.
Impressionnant.
Tout sur les cheveux.
Oui.
Alors Marie, vous nous présentez les moyens divers qui aident à apprivoiser les maths.
Les concepts mathématiques, oui. Donc, et notamment, pourquoi la manipulation d'objets peut-elle aider à l'apprentissage de concepts mathématiques? C'est un texte de Anne Laffey, publié sur le site parlonsapprentissage.com le 13 septembre 2017. D'emblée, on conseille souvent d'utiliser des objets et de les manipuler. On parle d'objets, de réglettes, de solides géométriques, de pièces de monnaie, de jetons, etc., pour favoriser l'apprentissage de concepts mathématiques. L'idée est intuitive, plaisante et largement répandue, mais la manipulation d'objets est-elle efficace pour l'apprentissage de concepts mathématiques? Carbonneau, Marley et Selig ont réalisé en 2013 une revue de littérature systématique de type méta-analyse qui visait à déterminer l'efficacité de la manipulation d'objets dans l'apprentissage en mathématiques. Pour ce faire, ils ont sélectionné 55 études. Les résultats, l'ensemble de ces études montre généralement un effet significatif des interventions menées avec la manipulation d'objets. Des constats intéressants sont ressortis. Les interventions ciblant les jeunes de 3 à 6 ans et de 7 à 11 ans sont plus efficaces que celles ciblant les adolescents dès 12 ans. Les interventions recourant à la manipulation d'objets donnent de meilleurs résultats pour l'apprentissage de concepts de fractions que des concepts d'arithmétique et d'algèbre. Les interventions utilisant des objets neutres, par exemple un cercle coupé en morceaux représentant des fractions, montrent une meilleure efficacité que celles utilisant des objets très proches de la réalité et très riches en détails, par exemple une pizza. Oh. Découpé en parts représentant des fractions.
C'est moins efficace.
C'est moins efficace. Wow. Parce que,
il y a
trop de détails, trop d'informations. C'est ça.
Gâteau au chocolat, ce que ça ferait?
Il faudrait que ça soit un gâteau neutre.
Juste le crémage, rien d'autre.
C'est ça.
Les interventions au cours desquelles l'adulte guide beaucoup les enfants par des commentaires verbaux obtiennent de meilleurs résultats que celles laissant les enfants dans la simple exploration libre. Et, dernier constat, les interventions courtes, inférieures à 14 jours ou allant de 15 à 45 jours, sont plus efficaces que celles supérieures à 46 jours. Les auteurs concluent donc à une supériorité des interventions utilisant la manipulation d'objets par rapport à celles ne s'appuyant que sur l'abstraction symbolique. Pourquoi la manipulation d'objets peut-elle aider à l'apprentissage de concepts mathématiques abstraits? Plusieurs raisons peuvent expliquer les bénéfices qu'apportent les objets de manipulation à l'apprentissage en maths. Premièrement, les théories développementales stipulent que l'objet de manipulation révèle la structure sous-jacente du concept et facilite la relation entre le concept abstrait et le phénomène concret. Comme les jeunes enfants seraient dépendants du monde physique et auraient besoin d'objets pour passer du monde physique au monde abstrait, les objets de manipulation leur permettraient de faire le lien entre un concept mathématique abstrait et le monde réel. Les plus vieux, eux, n'en auraient plus besoin. Deuxièmement, les théories cognitives suggèrent que l'objet de manipulation permet à l'apprenant de porter son attention sur un stimulus pertinent de l'environnement et lui offre une représentation multimodale utile pour l'encodage et la récupération future. D'une part, l'encodage est considéré comme double, car la représentation du concept est à la fois verbale, avec des mots et des symboles, et visuelle, mm-hmm. avec les images. Quand l'une des représentations est activée, l'autre le serait aussi. Ainsi, l'objet de manipulation propose une représentation visuelle qui, associée à la verbalisation, faciliterait l'apprentissage. D'autre part, la manipulation d'un objet crée une relation forte entre celui-ci et ses caractéristiques dans l'espace, mais également entre l'objet et les expériences motrices et perceptuelles de celui qui le manie, ce qui multiplie les canaux pour retenir et récupérer en mémoire un concept. Troisièmement, les théories motivationnelles expliquent que s'engager physiquement dans une activité, c'est motivant pour l'enfant et ça peut aider l'apprentissage. Les objets de manipulation donnent alors aux enfants l'opportunité de découvrir les concepts de manière informelle. À la suite de leur méta-analyse et de leurs explications concernant la façon dont la manipulation d'objets favorise l'apprentissage en mathématiques, les spécialistes émettent quelques recommandations pour l'apprentissage. Utiliser des objets de manipulation pour supporter l'imagerie mentale des enfants, s'assurer d'offrir un support verbal lorsque les enfants manipulent des objets, puisque cela est plus efficace que simplement les laisser manipuler et explorer. Contrôler la façon dont l'objet est manipulé. Prêter attention à l'objet qui est manipulé et au concept qu'il sous-tend réellement en regard du concept que l'adulte veut enseigner. Fournir des explications directes et explicites aux enfants pour qu'ils reconnaissent la valeur abstraite de l'objet et qu'ils ne manipulent pas pour ce qu'il est en lui-même ou juste pour le plaisir de manipuler. Contrôler la fidélité de l'objet de manipulation vis-à-vis du monde réel et du concept. Les interventions utilisant des objets neutres, c'est ce dont on parlait tantôt, sont plus efficaces que celles utilisant des objets riches en détails. Donc, ça nous disperse, c'est ça. Mm-hmm. En conclusion, les résultats des deux études présentées sont tout à fait encourageants. Je recommence. Si les résultats sont tout à fait encourageants, d'autres recherches actuelles convergent pourtant encore vers l'idée qu'il s'agit d'une croyance intuitive, largement répandue, mais dont les données probantes sont encore à obtenir. Pour bien préciser tout cela, de nouvelles recherches devront poursuivre l'étude du développement et de l'apprentissage en mathématiques chez les enfants, en particulier l'évaluation de l'efficacité de la manipulation d'objets. Il serait notamment pertinent de savoir dans quelles circonstances, avec quels objets, pour quels concepts et accompagné de quelles aides verbales l'apprentissage avec manipulation est efficace en mathématiques. Voilà pour cet article de Anne Laffey, publié sur parlonsapprentissage.com.
Merci.
Alors, un conseil du jour pour commencer l'année du bon pied. Visez l'utile et l'agréable, et non pas à l'agréable, mais et l'agréable. Personne n'y échappe. Nous avons tous des courses à faire, du linge à plier et des repas à préparer. Il n'y a pas de miracle. Mais pour éviter d'accomplir vos tâches à reculons, pourquoi ne pas essayer de joindre l'utile à l'agréable en ajoutant une touche de plaisir à vos obligations?
Ah oui, comment on fait ça?
J'ai une amie, pas moi personnellement, mais quelqu'un que je cite, j'ai une amie qui aime le conditionnement physique sur musique et qui tient aussi à avoir une maison propre. Alors, quand elle fait le ménage, elle met ses tunes préférées et elle fait de la Zumba en même temps. Illustre wow. Yarlidis Koneo, chargée de cours au département de management de l'Université Laval. Si l'experte en conciliation travail-famille le dit, on ne perd rien à essayer.
Wow!
Alors, on a des activités qu'on peut faire. Les enfants sont encore en vacances hein, jusqu'à lundi prochain.
Oui, oui, oui.
Alors, parmi les activités suggérées par la presse, essayez une nouvelle piscine. Peu importe qu'il pleut, qu'il pleuve, qu'il grêle, il fait toujours beau à la piscine. À l'intérieur. On peut essayer une piscine toute neuve comme celle du complexe sportif de Saint-Laurent inauguré en juin, ou aller s'éclabousser à celle de son quartier. On vérifie l'horaire des bains libres, parce que pendant la période des fêtes, qui parfois n'est pas terminée encore, ça change. Voilà.
Alors, une petite capsule linguistique.
Oui.
Employez-vous un programme de chat pour chatter dans les chatrooms? Alors, le mot anglais « chat », qui signifie « bavarder », est employé dans beaucoup de langues pour désigner le fait de bavarder sur Internet avec d'autres utilisateurs à l'aide d'un clavier d'ordinateur. Alors, évidemment, les termes associés aux nouvelles technologies nous viennent presque toujours de l'anglais. Cependant, avant d'accepter d'emblée l'anglicisme chat, il vaudrait peut-être mieux donner sa chance au néologisme clavarder. Le verbe clavarder est né de la fusion des mots clavier et bavarder.
Ouais.
Autrement dit, clavarder, c'est bavarder sur le clavier.
Voilà.
Alors.
Oui, un dernier conseil. Bien sûr, on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a eu une vie rangée, santé, qui malgré tout a été frappé sans crier gare d'un cancer trop jeune, beaucoup trop jeune. Mais en règle générale, la santé n'est pas une loterie, souligne le pharmacien et expert en produits de santé naturelle Jean-Yves Dionne. La plupart des maladies sont le résultat de facteurs connus qu'on peut souvent améliorer soi-même par l'exercice physique.
Alors, un petit mot d'enfant, tiens, fainéant. Selon Antoine, 10 ans, celui qui dort tout le temps pour ne pas savoir qu'il ne fait rien.
Oh, le gentil! Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Mathieu Tessier de ses choix musicaux, à la mise en onde. Merci à Marie-Yvan pour leur choix d'articles.